RCF.
Cette Amérique que Christophe Colomb n'a pas réussi à contourner, à traverser, cette ouverture vers la Chine et vers les Indes, disons, qu'il n'a pas trouvé, c'est finalement Magellan qui va réussir à faire ce que Christophe Colomb n'a pas réussi à faire, en contournant l'Amérique par le Sud ?
Oui, on a cherché longtemps à contourner l'Amérique et on a été très surpris quand on a atteint la latitude du Cap de Bonne-Espérance. Bon, il y a toujours une notion de symétrie dans les esprits à l'époque, mais on s'est aperçu que cette terre nouvelle descendait beaucoup plus bas. Est-ce qu'elle était reliée à cette fameuse terre australe ou pas? Est-ce que ça passait ou est-ce que ça passait pas? Alors on cherchait aussi dans le nord, le passage du nord-ouest, mais là c'était impraticable à l'époque, étant donné la situation des glaces à ce moment-là. Et donc on cherchait vainement ce passage à travers l'Amérique, puisque cette route vers les Moluques par l'ouest intéressait beaucoup l'Espagne. Alors pourquoi? Parce que à partir du moment où Christophe Colomb a trouvé quelque chose, donc ces Indes occidentales, les Indes se sont dédoublées, il y en avait à droite et il y en avait à gauche des cartes, et le fameux partage du monde entre l'Espagne et le Portugal à la latitude des Canaries, ça collait plus, et donc Alexandre VI Borgia, en 1493, a eu l'idée de partagé par le monde, non plus du nord au sud, mais d'est en ouest, par un méridien passant à 100 lieues à l'ouest des Açores, le Portugal étant dans sa zone à l'est et l'Espagne à l'ouest, sur ces terres qu'avait reconnu Christophe Colomb. Ça a été aménagé par le traité de Tordesillas en 1494, qui a officialisé ça entre les deux pays, en repoussant un petit peu la limite un petit peu plus à l'ouest. Et quand je le dis souvent, parce que je trouve ça sympathique, c'est que on parle portugais au Brésil, parce que le traité de Tordesillas a mis le Brésil dans la zone portugaise. Alors, l'idée de Magellan, ben, ça a été de vérifier si les Moluques étaient dans la zone espagnole ou dans la zone portugaise. Parce que le traité de Tordesillas, dans l'Atlantique, c'était impossible à mesurer véritablement, puisqu'on n'avait pas encore la longitude. La longitude, elle a attendu encore 4 siècles avant d'arriver. Mais alors, dans l'océan Pacifique, l'antiméridien, c'était encore pire.
Donc là, qu'est-ce que ça veut dire, l'antiméridien?
Ben, c'est-à-dire le méridien qui est de l'autre côté, le symétrique d'un méridien par rapport à l'autre côté, dans l'autre hémisphère.
Et la longitude, en quoi est-ce que c'est si important?
Eh ben, la longitude, c'est l'espace-temps, c'est cette mesure de la distance horizontalement autour de l'équateur. Tant qu'on ne peut pas mesurer cela, parce que c'est un rapport très complexe et très précis entre l'espace et le temps, il fallait ou bien des tables de navigation qui n'existaient pas et qu'on va mettre au point au XVIIIe siècle, ou des instruments de maintien de l'heure, des horloges particulièrement précises qui n'existeront pas non plus en XVIIIe siècle. Donc jusqu'à présent, la mesure de la longitude, ça se fait à l'estime. Donc déterminer la position du méridien de Tordesillas dans l'Atlantique, c'est déjà compliqué, mais le contraire du méridien de l'autre côté dans le Pacifique, ça devient tout à fait irréalisable. Donc tout le problème, c'est de savoir si les Moluques, ces îles tellement précieuses, le seul endroit où poussaient la muscade et le girofle, tout ce qu'on savait, c'était aux environs justement de cet antiméridien.
Pour savoir, il fallait y aller.
Il fallait y aller. Alors Magellan, c'était un petit noble portugais. C'est une histoire terrible. C'était un petit noble portugais, petite famille portugaise, suffisamment noble pour être admise à la cour, mais pas assez pour avoir des charges importantes. Magellan va faire la guerre dans l'Empire portugais. Il est blessé, il boitille. C'est un piètre courtisan. Il est pas beau. Il est pas en cour. Il revient des Indes, il a un poste au Maroc, il est accusé de malversation, comme c'est un caractériel. Il quitte son poste et rentre à Lisbonne pour demander justice au roi. Bon, il se fait engueuler par Manuel, finalement ça se passe très mal. Il veut absolument un commandement, il veut que ses services soient récompensés, et le roi lui dit « tu auras rien du tout ». Et à ce moment-là, il dit « sire, si vous ne voulez pas de moi, permettez-moi d'aller servir le roi d'Espagne ». Et « tiens qu'à y aller », lui répond Manuel. Et finalement,
c'est ce qu'il fait.
Magellan part en Espagne, et là il n'a qu'une idée, c'est de montrer que les Moluques sont espagnols. Alors pour faire ça, il va d'abord falloir franchir cette fameuse Amérique qui n'a pas de fin, mais là il va vérifier s'il trouve un passage. Et puis l'Espagne, les conseillers de Charles Quint acceptent cette idée. Après tout, ils n'ont rien à perdre.
Ils n'ont rien à perdre ?
Ben, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner.
Ça coûte de l'argent quand même, ce genre d'expédition.
Oui, mais comme les Moluques sont théoriquement portugais, si on peut montrer que c'est en réalité espagnol, ils ont gagné le pactole. Hein. Donc voilà, encore une fois...
Ça vaut le coup et c'est un bon investissement.
Ben, c'est le poivre et les épices valent plus que l'or. On a appelé le roi du Portugal le roi du poivre. C'est véritablement la fortune à cette époque. Hein. Les épices, ça coûte plus que le poids d'or.
Donc, carte blanche à Magellan.
Donc, carte blanche à Magellan, ça montre simplement ce qu'on fait, c'est quand même ce petit noble portugais, c'est quand même pas très sérieux. Et donc, on met avec lui trois grands d'Espagne, qui sont Juan de Cartagena, qui est le videur, c'est-à-dire lui qui représente les intérêts du roi. Il a un rang égal avec l'amiral, ça commence déjà pas bien. Il y a Luis de Mendoza et Gaspar de Quesada, qui ont tous les deux des fonctions aussi, qui sont des grands d'Espagne. Et trois grands d'Espagne qui partent sous les ordres d'un petit obro portugais, ça va mal se passer. Et effectivement, la flottille descend, arrive à l'hiver austral, à des latitudes jamais atteintes, il fait froid, l'idée de Magellan paraît stupide, et puis une révolte éclate, une mutinerie éclate. Magellan a la chance de pouvoir maîtriser cette mutinerie. Juan de Cartagena est abandonné sur une île déserte, et les deux autres au Grand Espagne sont décapités, et leur corps est mis en quartier par le cabestan de la Trinidad. À partir de là, Magellan, on peut dire, s'est pas fait des amis en Espagne.
Alors, c'est un bon navigateur, Magellan ?
Alors lui, c'est un très bon navigateur, surtout un homme courageux. Il a montré son courage au Portugal, il persistait, et finalement, il découvre le détroit en 1520. Ses bateaux trouvent le détroit de Magellan, le franchissent, par très beau temps, et pour ça qu'il appelle l'océan Pacifique, parce qu'il y fait très beau, ils ont eu la chance de passer par beau temps, et commence la traversée du Pacifique, qui devient une traversée épouvantable, parce que le Pacifique, c'est beaucoup plus grand qu'ils s'y attendent. On l'appelait la mer du Sud jusqu'à là, parce que les Espagnols l'avaient vu sous cette forme à partir de l'isthme de Panama, donc ils le rebaptisent Pacifique, et puis le Pacifique n'a pas de fin, et Michel Chandaigne, qui a fait une très belle étude critique du journal de Magellan, a démontré que Magellan avait compris qu'il s'était trompé, que le Pacifique était tellement grand qu'il était sorti de la zone espagnole et qu'il était rentré dans la zone portugaise et que donc les Moluques n'étaient pas portugaises. Ayant échoué dans sa tentative et n'ayant plus rien à faire en Espagne après avoir condamné à mort trois grands d'Espagne, n'ayant plus rien au Portugal qu'il a trahi, il a manifesté.
Et venant annoncer une mauvaise nouvelle, en plus, c'est que les Moluques n'étaient pas portugais.
Et c'est la raison, et Michel Chandaigne explique que c'est la raison pour laquelle le combat stupide qu'il a mené à Mactan, aux Philippines, contre des forces d'un roi bien supérieur à ces quelques soldats de Charles Quint, qu'il a manifestement cherché une mort glorieuse et qu'il s'est suicidé. Alors, les deux bateaux qui restent, la Trinidad et la Victoria, atteignent les Moluques sous les commandements de Juan Sebastián de Elcano. Et puis, ils se chargent d'épices à refus. Les bateaux sont en mauvais état. La Trinidad essaie de rentrer à travers le Pacifique, retrouve dans la zone espagnole. Ils veulent pas traverser la zone portugaise, il faut qu'ils reviennent. C'est ça qui était prévu, c'était aller aux Moluques et d'en revenir par la traversant le Pacifique. Malheureusement, il y a un régime des vents dans le Pacifique comme dans l'Atlantique qui fait qu'il faudra attendre très longtemps pour qu'on trouve la route de retour. Donc la Trinidad n'arrive pas à traverser le Pacifique, revient se faire interner chez les Portugais. Et la Victoria, qui a réparé ses avaries, qui a bouché sa voie d'eau, est obligée de revenir piteusement, vent arrière, à travers la zone portugaise. Et elle fait accidentellement le premier tour du monde, ce qui n'était pas prévu du tout. Alors ils sont partis de Séville à 237 hommes, il en rentre 18, on ne les attendait plus du tout.
Et ils sont accueillis comment ?
Eh bien ils sont accueillis en triomphateurs, mais ceux qui ont été internés ont été rendus des années après au Portugal. C'est une affaire qui se termine un peu en queue de poisson, et très malheureusement. Alors le tour du monde, le premier tour du monde, c'est une grande joie. Un deuxième voyage est organisé sur la même route, et Elcano va d'ailleurs mourir en route dans le Pacifique au cours de ce deuxième voyage.
On est là à un moment charnière de l'histoire de la navigation.
Oui, on est là à un moment charnière parce que on est à une époque où Le Portugal est totalement étiré jusqu'aux Indes. Il n'a pas les moyens d'exploiter, enfin, tout ce qu'il ramène des Indes, il ne peut pas le distribuer dans l'Europe. Il a sous-traité ça aux caboteurs hollandais qui viennent à Lisbonne se servir et distribuer toutes les richesses des Indes dans l'Europe du Nord. Et puis, il se trouve que la trahison des secrets de la route des Indes par l'archevêque de Goa a eu la mauvaise idée de prendre comme secrétaire un marin hollandais très intelligent qui va publier un livre qui s'appelle l'Itinerario, qui est une sorte de guide de voyage et de commerce et de route vers les Indes. Donc ça paraît, c'est un succès universel. Quelques cartes marines sont aussi pillées à la Casa de India. Et finalement, le secret de la route des Indes est divulgué. Et c'est le moment où les échanges d'infantes entre l'Espagne et le Portugal, qui sont traditionnels depuis très longtemps, font que Philippe II d'Espagne peut revendiquer le trône du Portugal et devient Philippe Ier du Portugal. À ce moment-là, ça brouille le Portugal avec la Hollande. Le port de Lisbonne se ferme aux Hollandais et les Hollandais prennent le parti de les servir eux-mêmes. Ils vont arriver avec tout leur savoir-faire, leur naval considérable. Ils vont s'abattre sur les Indes, s'installer en Indonésie, à Jakarta, ils fondent Batavia et le Portugal son empire va disparaître en une décennie. C'est la grande époque des Anglais, des Hollandais
qui vont
devenir
la relève.
Conquérants et qui vont remplacer les royaumes ibériques dans les terres nouvelles.
Vous reviendrez pour nous en parler, François Bellec. Ce sera probablement dans le deuxième tome de votre histoire de la navigation.
Voilà, ça sera l'objet du deuxième volume et je reviendrai avec plaisir à la même époque l'année prochaine.
Très bien, le rendez-vous est pris. Un très grand merci d'être venu nous parler de cette histoire de la navigation. Donc, premier tome paru aux éditions de Monza. Je rappelle, François Bellec, que vous êtes officier de marine, ancien président de l'Académie de marine, entre autres, et que vous avez été responsable du musée de la marine à Paris pendant de nombreuses années. Un très grand merci à vous.
Merci.